Interview.
7 à tous, vous êtes bien sur le 107.5 FM, www.rdwa.fr, rdwa.fr, c'est Tizmo au micro, et je suis aujourd'hui en compagnie de Jean-Claude Rouchouz. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour, bonjour.
Et Jean-Claude, donc tu fais partie du groupe mycologique de l'Association des Amis des Arts et du Musée de Die.
Voilà, un petit groupe que l'on a créé il y a à peu près un an et demi.
D'accord. Et si tu es là aujourd'hui, c'est pour nous parler d'un petit événement que vous organisez.
Donc on organise une petite balade, ça sera la deuxième, une petite balade botanique et mycologique, le matin seulement, le mardi 5 mai, hein, de 9h à midi, pas loin de Die, du côté de Saint-Maloc. Et on a le rendez-vous qui est à 9h devant l'office de tourisme de Die. Donc c'est ouvert à toute personne qui s'intéresse aux plantes et aux champignons.
Aux plantes et aux champignons. Aux voilà. Champignons à cette saison
Alors il y a quelques espèces de champignons au printemps, rares, mais on peut trouver quelques champignons.
Comme lesquels
Alors il y a les morilles, bien sûr. Hein.
Oui.
Et puis il y a des coprins, par exemple, qui, suite à une pluies peuvent pousser assez rapidement. Il y a les champignons alors, qui restent tout le temps, qui sont sur les troncs, les polypores. Bon, on peut trouver quelques champignons. Bien sûr, il y en a 100 fois moins que dans la grande période de l'automne.
Et oui, bien sûr. Donc c'est pour ça que cette balade est aussi axée sur les plantes.
Elle est même plus axée sur les plantes, parce qu'on est sûr de trouver des plantes fleuries,
oui.
Alors qu'on n'est pas du tout sûr de trouver des champignons. Donc pour les plantes, ben c'est très varié, hein. Elles commencent vraiment à sortir. Donc on a le début de la floraison des orchidées.
Oui.
On trouve près d'une trentaine d'espèces différentes d'orchidées dans le Diwa.
Ah oui, tant que ça.
Hein, donc c'est des jolies plantes qui sont très curieuses parce que elles ont une reproduction tout à fait à part. Le pétale inférieur des orchidées, qu'on appelle le labelle, imite l'abdomen ou une partie du corps d'un insecte femelle. Donc ce label, par son odeur et par sa forme, attire l'insecte mâle qui essaye de se reproduire avec le leur que constitue le label de la fleur. Et au-dessus du label, il y a les étamines. Donc quand l'insecte se pose sur le label, les étamines se ploient et elles déposent le pollen sur la tête de l'insecte qui s'en va et comme il change de fleur, il va apporter le pollen à une autre orchidée. Et à ce moment-là, les grains de pollen germent sur le pistil, sur la partie femelle de la plante, et ça fait la fécondation de la plante. Donc c'est un truc assez extraordinaire,
ah oui.
Très, très, très perfectionné pour les orchidées. Et en plus, les orchidées sont symbiotiques avec des champignons. C'est-à-dire que les graines en particulier ne peuvent germer que s'il y a une action en commun avec des champignons, avec des filaments mycéliens. Donc il y a une espèce de complexe assez curieux. L'orchidée a besoin des insectes et elle a besoin aussi de champignons.
Voilà. Ah oui,
des petits champignons, hein, pas ceux que l'on cueille, hein, des espèces microscopiques.
Des spores.
Voilà. Donc il y a les orchidées, hein, mais on voit apparaître aussi d'autres plantes, bien sûr. Hein. On a les potentilles, qui sont des petites plantes à fleurs jaunes. On a les crocus. Bon, on a parmi les premières plantes, on commence à avoir des gentianes. Bon, il y a toute une variété de plantes dans le... dans le Diois et dans le Vercors, probablement plus de 1000 espèces différentes, hein, c'est vraiment important. Pour les champignons, personnellement, moi j'ai déterminé sur le Diois et le Vercors 280 espèces différentes de champignons.
Ah oui. C'est conséquent hein, quand même.
Voilà, c'est conséquent. Hein. Donc personne ne connaît la totalité des champignons qui existent dans le Diois et dans le Vercors, et même la totalité des plantes. Bon, bien sûr, on connaît toutes les espèces, on ne va pas découvrir une nouvelle espèce, sauf peut-être pour les champignons. On ne va pas découvrir une nouvelle espèce. Pour les plantes, en tout cas, il y a des flores qui sont élaborées, qui sont bien complètes. Donc il y a une sorte de diversité qui est liée aussi au fait que dans le Diois, on a deux climats déjà. Hein. On a le climat alpin côté Vercors et on a le climat plutôt provençal côté sud. Donc il y a une variété climatique qui explique la variété florale et mycologique, mais il y a aussi une variété géologique, parce qu'on a, en simplifiant, trois types de terrains. On a des terrains très calcaires, on a des terrains très marneux. Les marnes, c'est un mélange d'argile et de calcaire. Et puis on a aussi des terrains limoneux, des alluvions, des terrasses fluvio-glaciaires. Donc la variété géologique plus la variété climatique explique la variété de la flore.
D'accord, ok. Ouais. C'est pour ça qu'il y a tant d'espèces, voilà, de champignons, de plantes.
Oui, oui. Alors bien sûr, alors il y a la caractéristique, je dirais, au niveau de la fréquentation, enfin, des plantes et des champignons, c'est que c'est très familial. C'est très familial. Donc on va ramasser des plantes en famille, on va ramasser des champignons en famille. Contrairement à la pratique de la chasse et de la pêche, qui sont pratiquement à 95% pratiquées par les hommes et pas par les femmes.
Ah oui, hein, oui, oui.
Donc c'est assez curieux.
Oui, oui.
Mais côté champignons, on y va en famille, ou on peut y aller tout seul, bien sûr. Aussi,
c'est
hein.
Parce qu'il y a le côté balade.
Il y a le côté balade. Mais on pourrait dire que la chasse et la pêche aussi, il y a le côté balade.
Bah, on est peut-être plus statique lors de la pêche et la chasse.
Pas dans le Diois, parce que dans le Diois, c'est surtout la pêche à la truite.
Ah oui.
Où on n'est pas statique du tout.
Non, on est dans la rivière.
On est dans la rivière et on remonte la rivière.
Et oui.
Donc, non, c'est une tradition très, très, très ancienne, parce que c'était probablement déjà vrai chez les hommes préhistoriques,
hein, ah oui,
que c'est les hommes qui font la chasse et la pêche, et que c'est les femmes qui font la cueillette. Et curieusement, ça reste toujours vrai. Ça reste toujours vrai. Alors donc, pour la cueillette des champignons, bon, bien sûr, il faut être prudent. Hein. Il y a quand même... C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne vont jamais cueillir les champignons, parce qu'ils
connaissent
ont peur.
Pas bien. Ben oui.
Hein. Donc il y a quand même une dizaine d'espèces mortelles,
oui,
ou très très toxiques dans le Diois et dans le Vercors. Il y en a au moins une bonne soixantaine ou plus qui sont plus qu'indigestes. Hein, indigestes. Et il y en a, disons, on peut ramasser une vingtaine d'espèces de champignons qui sont des bons comestibles.
D'accord.
Voilà.
Oui, d'où la nécessité quand même d'être un petit peu renseigné.
D'être renseigné, d'être prudent.
Bien sûr.
En pratique, quand on cueille un champignon, il faut connaître le risque d'erreur. Hein, il faut connaître le risque d'erreur. Je cueille ça, avec quel autre champignon je peux me tromper ? Quel autre champignon toxique lui ressemblerait.
D'accord, c'est ce que tu appelles le risque d'erreur.
Voilà,
je comprends.
Voilà.
Tout ce que tu me décris, c'est un petit peu ce qui se passe lors de cette balade botanique mycologique, c'est-à-dire lors de cette balade, tu expliques un petit peu aux personnes qui t'accompagnent, comme tu es en train de me l'expliquer à moi,
ouais,
les différentes espèces qui se trouvent dans le Diois. Ouais. Et par exemple, ce que tu m'expliquais pour les orchidées.
Ouais.
Ça, c'est ce genre de description que tu fais aussi.
Voilà, voilà. Bon, dans la mesure de mes connaissances, hein, parce que je ne connais, je suis loin de connaître tout. D'ailleurs, personne ne connaît tout dans le domaine. Bien sûr.
Mais c'était vraiment la question que j'allais te poser. Cette connaissance te vient d'études ou de passion seulement?
Les deux. Oui. Les deux, parce que moi j'étais professeur de sciences naturelles,
d'accord,
de SVT,
oui.
Donc j'ai une formation botanique,
oui.
Mycologique non, mycologique on étudie très peu, assez peu les champignons, enfin un tout petit peu à l'université, donc mycologique je me suis perfectionné par moi-même, et puis je fais partie du club mycologique de Montélégé, il y a une importante association mycologique à Montélégé,
hein,
pas loin de Cray.
Oui.
Donc là, on apprend aussi. Et puis, donc, en se perfectionnant peu à peu, par curiosité, voilà. Alors, il y a bien sûr pour les plantes, il y a des bases que l'on peut connaître assez facilement. Hein. Par exemple, en général, maintenant, ben, c'est devenu moins vrai parce qu'il y a eu des progrès avec la génétique. Mais en général, c'est une tradition ancienne. On distinguait les plantes qu'on appelle les monocotylédones et les plantes qu'on appelle les dicotylédones. Les monocotylédones, ce n'est pas très compliqué, c'est les liliacées, les lys et
d'accord,
les orchidées.
Oui.
Elles ont ce qu'on appelle une symétrie de type 3. C'est-à-dire que, par exemple, une liliacée, elle peut avoir 3 sépales, 3 pétales, 6 étamines, 3 carpelles qui sont les éléments femelles. Donc, c'est on dit qu'elles sont de type 3.
D'accord.
Tandis que les dicotylédones, elles sont de type 4 ou 5 ou 7, mais beaucoup moins de type 3. Donc, voilà, c'est
intéressant,
l'une des grandes dichotomies que maintenant, elle est un peu dépassée au niveau scientifique, mais ça reste valable. Hein. Les plantes se regroupent par famille. Hein.
Oui.
Par exemple, les renonculacées, c'est des plantes qui ont en général 5 pétales. Le bouton d'or, hein, le bouton d'or, 5 pétales.
Oui.
Et puis, elles ont des étamines nombreuses. Donc, chaque famille a des caractéristiques. Donc, quelquefois, on dit, ah ben ça, je ne connais pas le nom de cette plante, je ne connais pas son nom d'espèce, mais je peux vous garantir que c'est une labiacée, par exemple. Les labiacées, souvent, elles ont des tiges carrées. C'est des petites plantes, hein, à fleurs.
Oui.
Mais la tige, elle est carrée.
Ah oui.
Voilà. Donc, la tige est carrée, c'est probablement, on dit une lamiacée. Voilà, une labiée, une lamiacée, des fois les noms des familles changent en plus.
En fait, on est tout le temps en train d'apprendre.
Oui, on est tout le temps en train d'apprendre. Puis il y a une évolution, hein, comme toute science. La botanique évolue, la mycologie encore plus. Je dirais qu'il y a un peu plus d'inconnus sur la mycologie parce que les champignons sont un monde un peu à part. D'abord, c'est un monde souterrain. Hein, le champignon, il est à 90% souterrain.
Oui, OK.
Et ce qui apparaît, ce que l'on cueille, c'est l'appareil reproducteur.
Ah, intéressant.
On ne ramasse que l'appareil reproducteur.
D'accord.
Tout le reste, qui peut être immense, immense. Il y a eu des études sur des champignons dont les mycéliums peuvent couvrir plus d'un hectare.
Sous terre.
Sous terre. Ça peut peser des dizaines de tonnes.
Hein, ouais.
Parce que tout communique. Les mycéliums communiquent entre eux. Donc, il y a des chapeaux qui sortent à des endroits différents.
Oui.
Mais donc, il y a un chapeau où l'on est, puis il y a un chapeau, un appareil reproducteur 100 mètres plus loin, puis un autre 300 mètres plus loin. Mais par le mycélium, ils communiquent. Donc, c'est un gigantesque organisme. En réalité.
Mais,
bon, il y a plein de trucs comme ça que l'on découvre
intéressant,
chez les champignons.
Ce qu'on cueille pour manger, donc les champignons comestibles, l'appareil reproducteur que l'on va consommer.
Uniquement. Ouais.
Ah oui.
Uniquement. Alors bien sûr, quand on dit qu'un champignon est comestible, c'est comestible cuit.
Oui.
Toujours, hein.
Toujours. Oui. Oui, oui,
attention,
tu fais bien,
hein.
Tu fais bien d'insister.
Il faut
point.
Bien préciser, hein. C'est quand c'est marqué sur un livre comestible, c'est cuit.
Oui.
Parce qu'il y a des champignons qui sont comestibles cuits et très toxiques crus.
Ah oui, d'accord.
Alors c'est, hein, toujours cuit, oui. Et bien cuit en plus, hein. Il y a certains champignons, il faut... moi, il y a un champignon qu'il m'arrive de manger, mais je prends la précaution de l'ébouillanter deux fois, de ne ramasser que les exemplaires jeunes et en bon état. Voilà. Donc, pour chaque espèce, il faut aussi voir... et puis, on a toujours, il faut le reconnaître, qu'on peut avoir un champignon qui est comestible, c'est marqué comestible dans les bouquins, mais il se trouve que vous êtes une personne qui le supporte moins bien que d'autres.
Ah oui, il y a une certaine tolérance.
Il y a aussi ce problème-là. D'autre part, il faut toujours les manger frais. Hein, il faut pas, faut toujours les manger frais, rapidement.
Oui.
Rapidement, sauf ceux que l'on peut faire sécher.
Ah oui, exact.
Comme les cratrelles. Hein, les cratrelles, on peut les faire sécher. Donc à ce moment-là, elles peuvent se conserver longtemps, plusieurs années.
Ah oui, d'accord.
Hein. Et ensuite, on les remet dans l'eau et on les fait bouillir, bien sûr. Hein.
Oui, oui, oui.
Moi, par précaution, en général, j'ébouillante tous les champignons. Il y en a qui ne le font pas parce que disent que quelquefois, pour un champignon qui est marqué comestible, ça enlève un peu de sa qualité gastronomique. Mais moi, par précaution, j'ai ébouillante.
Vaut mieux privilégier, je pense, la sécurité.
Hein. Ouais.
Donc, tout ce dont tu parles, donc, c'est ce que tu décris lors de cette balade, avec en plus les exemples que vous pouvez trouver
lors
de la balade.
Et puis, sont des, les gens discutent entre eux. Hein.
Oui.
Voilà, donc on discute, on trouve une plante, on dit ah, bah, celle-là, c'est cette plante-là, celle-là, je ne la connais pas, ça, c'est probablement... une orchidée, ça va être plutôt dans le groupe des labiers ou des euphorbes. Il y a des plantes qui sont bizarres. Les euphorbes, par exemple, c'est des plantes, on n'arrive pas à voir où sont les pétales et les sépales. Elles ont la fleur est un peu particulière. Enfin, il y a des curiosités hein, dans les plantes.
Alors, qu'est-ce que tu veux dire par sépale ?
Alors, dans la fleur...
Oui.
Il y a quatre parties.
D'accord.
Il y a les sépales qui sont, disons, des pseudo-feuilles, hein, les plus externes. Et puis quand on se rapproche de l'axe de la fleur, on trouve les pétales,
d'accord,
qui sont généralement, mais pas toujours, colorés.
Oui.
Et au milieu, on trouve les étamines, qui sont les éléments mâles.
D'accord.
Et les carpelles, qui se regroupent pour former ce qu'on appelle le pistil, c'est-à-dire la partie femelle.
D'accord.
La plupart des plantes sont hermaphrodites, c'est-à-dire qu'elles sont
mâles
et femelles. Il y en a qui ne sont pas hermaphrodites, hein. On dit qu'elles sont monoïques. Par exemple, il y a, sur un même pied, il y a... Par exemple, en bas de la plante, les fleurs femelles et en haut, les fleurs mâles, hein, séparées.
Ah oui, d'accord.
Et il y a aussi des plantes où il y a, par exemple, pour certains arbres, un arbre mâle qui n'a que des fleurs mâles et un arbre femelle qui n'a que des fleurs femelles. Donc ça, on appelle ça les espèces dioïques. Hein. Mais la règle, en général, c'est l'hermaphrodisme, donc des plantes qui ont dans leurs fleurs les étamines et le pistil formé par l'ovaire. Et l'ovaire lui-même est formé par des carpelles.
Voilà. D'accord.
Donc sépales, pétales, étamines, carpelles, c'est la fleur.
C'est les quatre éléments qui...
C'est les quatre éléments.
D'accord.
Ouais. Alors, il y a toujours des exceptions. Il y a des plantes qui n'ont pas de pétales, donc les sépales. Il y en a d'autres où les sépales et les pétales ont la même couleur. Donc, on n'arrive pas à les différencier. Bon, il y a toujours... en même temps, c'est ça l'intéressant dans la botanique, c'est qu'on a toujours des choses inattendues.
Des surprises.
Ou compliquées. Alors, il y a des plantes qui sont très compliquées. Moi, j'ai presque renoncé à déterminer l'espèce et les graminées. Parce que le blé, enfin, c'est minuscule. Donc vraiment, c'est complexe, il faut une loupe, voilà. Ce qu'on appelle les cipéracées, les plantes, les carex, dans les, voilà. Ça, c'est très complexe aussi, c'est tout petit, c'est pas coloré. Parce qu'en général, les plantes non colorées, les graminées, le pollen, il est emporté par le vent.
Oui.
Donc,
oui.
Elles n'ont pas besoin d'être colorées.
Pour attirer les insectes.
Pour attirer les insectes. Elles n'attirent pas les insectes, ça part dans le vent. Hein, le pollen part dans le vent. C'est microscopique, le pollen, et c'est dispersé partout. Ça peut monter à 2 km de hauteur en altitude. Ça va partout. Ça peut faire des milliers de kilomètres. Hein. Donc, par contre, les plantes à fleurs bien colorées, alors quand une plante a des fleurs bien colorées, alors on peut être certain que c'est pour attirer quelqu'un.
Ah oui, oui, oui.
Ça peut être un insecte. En général, c'est un insecte. En Afrique, ça pourrait être des chauves-souris. Enfin, bon, il y a voilà. Mais c'est pour attirer quelqu'un parce que faut un élément extérieur. Il faut que le grain de pollen
voyage.
Voilà. Alors, il y en a, par exemple, il y en a une qui est dans le Diwa, qui est assez incroyable. On appelle ça le pied de griffon ou élébore fétide. C'est une plante fréquente qui a des grandes fleurs. Et ben, c'est une plante qui s'est débrouillée pour que elle sent super mauvais. Il ne faut pas la planter dans son jardin.
Ah ouais.
Ça sent super mauvais. Donc, elle attire les mouches.
D'accord. Hein, okay.
Qui viennent et puis hop, elles partent avec le pollen. Le pollen est collant souvent, hein, ça part. Voilà. Mais en même temps, elles ont modifié les pétales qu'elles ont transformés en tubes. Et au fond du tube, il y a du nectar. Donc, elles attirent les abeilles ou les papillons. Hein. Et en plus, quand elles font leurs graines, et quand les graines tombent sur le sol, sur les graines, il y a une substance qui attire les fourmis, qui est un peu aphrodisiaque. Enfin, ça attire les fourmis, en tout cas. Donc, les fourmis, elles prennent les graines, et puis elles consomment un peu cette espèce de substance qui est sur la graine. Mais comme la graine est hyper dure, elle laisse tomber la graine, donc elle disperse les graines.
Ah oui.
Donc l'élébore fétide s'est débrouillé pour attirer les mouches, attirer les abeilles, se débrouiller avec disperser ses graines avec les fourmis, et en plus elle fleurit très longtemps. D'où son succès. Hein, on en voit souvent.
Ah ouais, c'est extrêmement intéressant tout ça.
Voilà, donc il y a des trucs assez curieux. Alors les orchidées, hein, j'en ai parlé, elles sont aussi assez surprenantes au niveau de leur façon d'attirer une espèce. Quelquefois, c'est une orchidée n'attire qu'une seule espèce d'insecte. Quelquefois, elles attirent plusieurs espèces, mais quelquefois, c'est très
ciblé.
Très ciblé.
Très intéressant ciblé. Ça aussi.
On connaît mal l'explication de cette perfection. Bon, c'est la théorie darwinienne, hein, c'est des essais et des erreurs. Et puis, quand ça marche bien, ben, la plante se reproduit plus facilement. Donc, peu à peu, on voit apparaître la meilleure solution. Bon, il y a le temps qui intervient, hein, parce que cette évolution, elle se fait sur des centaines de milliers d'années, quelquefois des millions d'années. Donc, il faut tenir compte du temps. Bon, c'est le temps qui arrive à expliquer cette sorte de perfection. Mais ça reste assez étonnant. Assez étonnant. Donc cette petite balade, bah, c'est une balade d'une matinée. Hein, c'est sans prétention. Tout le monde est invité. Enfin, ceux qui s'intéressent aux plantes et aux champignons peuvent venir. Et c'est gratuit.
C'est gratuit. Voilà, et c'est toi qui animes en fait un petit peu.
Avec Daniel Nall, c'est avec Daniel Nall qu'on a monté ce petit groupe mycologique. Donc on fait une petite balade comme ça en expliquant un peu la structure des plantes, la structure des champignons. Et puis la diversité que l'on peut trouver dans le Diwa.
Oui, oui, d'accord. Donc vous choisissez quand même des endroits un peu précis.
Oui. La balade que l'on a faite il y a 15 jours, elle est dans un endroit qui est intéressant pour plusieurs raisons. C'est vers Saint-Romand,
oui.
Pas loin, c'est l'embouchure du Bèze et de la Drôme, mais c'est un endroit où on a à la fois donc, l'embouchure du Bèze et de la Drôme, donc... ce qu'on appelle la ripisylve, c'est-à-dire les plantes de bord de l'eau,
oui. Hein,
et puis le caillouti de la Drôme,
oui, tout à fait.
Où il y a des plantes un peu particulières. Mais en même temps, il y a des vergers abandonnés avec des, quelques fleurs un peu curieuses, beaucoup de lichens sur les pommiers abandonnés.
Okay.
Et en même temps, c'est un super endroit pour voir les traces des castors.
Ah oui.
Et même les castors eux-mêmes, quelquefois. Rarement, parce qu'ils ne sortent qu'à la tombée de la nuit. Mais, et en plus, les castors ont fabriqué un marécage qui fait plus d'un hectare. Ils ont modifié le paysage, pratiquement. C'est une zone où, sur une balade de même pas un kilomètre, on a au moins 4 écosystèmes différents. Ce qui est un peu exceptionnel.
Hein, oui, je comprends.
Celle que l'on va faire, là, sera peut-être moins diversifiée. Mais bon, il y a toujours aussi...
Tout aussi intéressant.
Tout aussi intéressant. Hein, c'est très varié. C'est très varié. Le Diwa est très varié. Et le Vercors est encore différent.
Ah oui.
Hein, parce
ah,
qu'on oui. On a des grandes forêts d'épicéas dans le Vercors que l'on a beaucoup moins dans le Diwa. Hein. Alors bien entendu, tous les Diwa connaissent très bien Kombo parce que c'est réputé pour ses prairies de fleurs, déjà maintenant. Et il y a aussi vers Valdrome, ce qu'on appelle la Sarcena, ça c'est très riche. Les grandes forêts du Vercors, la variété du Vercors, il y a de quoi faire. Et il y a des zones moins connues mais qui sont aussi intéressantes, comme certains coins des Gorges de la Roanne. On descend plus vers le sud, donc on aura des espèces un peu différentes. C'est vraiment...
C'est infini.
Ah oui, c'est infini.
Ah oui.
C'est infini.
C'est plusieurs perspectives de balade à venir, en tout cas.
Oui, oui, oui. Ouais, ouais. Donc après, on fera peut-être en automne une balade champignons.
Oui,
axée sur les champignons.
Axée ouais. Beaucoup plus...
Mais ça, c'est réservé pour l'automne. Plutôt.
Oui, tout à fait.
Voilà. Et puis on prépare la grande exposition mycologique d'octobre, qui vers le 10 octobre. Ça dure 3 jours. C'est la salle polyvalente de Die.
Oui.
Et là, ça va être la troisième année, quatrième année. Et en général, on demande aux gens de nous apporter des champignons. On va en chercher avant.
Oui.
Et on tourne entre le minimum que l'on avait une année, je crois que c'était 110 espèces différentes de champignons. Et on est monté une autre année à 200 espèces différentes.
Oh là là.
À Montélégé, où c'est une exposition encore plus importante avec beaucoup plus de ramasseurs, il monte presque à 400 espèces différentes de champignons.
Ah ouais.
Donc c'est très...
De toute façon, d'ici octobre, on espère que tu reviendras à la radio pour nous reparler donc, de cette
pour annoncer l'exposition.
Bien
ouais.
sûr.
Ouais. L'année dernière, il y avait eu 500 visiteurs, donc c'est...
Oui, c'est quand même remarquable.
Ça se développe.
Bon, bah très bien.
Donc voilà pour cette petite balade donc, du mardi 5 mai.
Mardi 5 mai.
De 9h à midi.
Oui.
Et le rendez-vous est à 9h devant l'office de tourisme de Die.
Entendu. Et c'est gratuit. Bah très bien.
Merci bien.
Eh bien, merci d'être venu nous décrire ça.
De rien.
Et à bientôt.
Entendu.
Au revoir.
Au revoir.
Interview. 1 terre.
Okay, the bird.
L'interview du jour.
L'interview du jour.